Merci réellement pour votre accueil. Je me sens tellement privilégié d'être là avec vous. Comme le disait Pasteur Jérémy, c'est la troisième fois que je suis aujourd'hui ici avec vous et je suis tellement touché de voir l'œuvre de Dieu à l'église Nouvelle Vie Châteauguay. On est passé à deux réunions, guys. Est-ce qu'on peut s'applaudir ce matin? Dieu fait son œuvre et c'est beau de voir. Et j'aimerais ce matin remercier le staff de NV Châteauguay. Merci pour votre accueil. Merci pour parce que vous me permettez, vous me faites confiance de pouvoir prêcher ce matin. Et j'aimerais aussi remercier le band de Louange. Ok, c'est ma femme qui chantait. Mais est-ce qu'on peut faire du bruit particulièrement pour Johanna? Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme l'a dit Jérémy, je suis Anthony Ajor, que je suis pasteur des ados à l'église Nouvelle Vie. Et c'est un ministère que j'aime tellement. J'aime tellement parler aux ados et de leur expliquer que la décision qu'ils peuvent prendre, la meilleure décision qu'ils peuvent prendre de leur vie, c'est suivre Jésus. Et encore, vendredi soir, on était 212 ados à Longueuil. C'est fou ce qui se passe. Il y a un réveil à Châteauguay, mais il y a aussi un réveil dans le cœur des ados au Québec. Amen. Et il y a aussi, ici à Châteauguay, des ados. Et j'aimerais particulièrement ce matin remercier Benjamin et Laura qui font un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut les remercier pour tout ce qu'ils font? Merci Seigneur pour les cœurs qui se lèvent pour toi. Et ce matin, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir vous présenter une série qui prend place sur tous les sites Nouvelle Vie, qui s'intitule « Immuable, la croix pour aujourd'hui ». Ce que la croix peut encore faire dans ta vie aujourd'hui. Et jusqu'à Pâques, jusqu'à vendredi Pâques, vous êtes tous invités à Longueuil, on va ensemble revenir à la croix, redécouvrir la croix, être renouvelé par le message de la croix, parce qu'on croit que le message de la croix, la puissance de la croix, le miracle de la croix est encore pertinent pour aujourd'hui. Ceux qui sont d'accord avec moi disent amen. Yes, immuable. Si on regarde à la définition de immuable, c'est qu'il ne connaît aucune ombre de variation. C'est des synonymes, qui est inébranlable, qui est éternel, qui ne change pas, qui dans ce lieu sait que ce qui s'est passé à la croix ne changera jamais, que ce qui s'est passé dans la croix est inébranlable et a une portée éternelle pour la vie de chacun de nous. Amen. La croix et la résurrection de Jésus pointent le point central et le point central de la Bible, mais aussi de l'histoire de l'humanité. On date l'histoire de l'humanité par rapport à ce qui s'est passé sur la croix, par rapport à la venue de Jésus sur la terre. Mais je crois aussi que ce matin, dans ce lieu, la croix est le point central de votre propre histoire. Je crois que ce matin, vous tous, il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui peuvent témoigner qu'il y a eu un avant dans ma vie et un après dans ma vie, après la croix. Il y a eu un avant la croix et il y a un après la croix. Et ce matin, justement, j'aimerais parler d'un thème qui est la croix, vous avez tous deviné, mais le titre de mon message, c'est « La croix seule me suffit ». Parce que ce matin, que tu sois croyant ou non, que tu sois chrétien depuis longtemps ou peut-être que tu commences à tes tout premiers débuts dans la vie chrétienne, j'aimerais te dire que ton plus grand besoin, le besoin de nous tous ce matin, c'est la croix de Jésus-Christ dans notre vie. La croix seule me suffit. Et pour parler de cela, on va ensemble voir un texte qui se déroule dans Luc au chapitre 18. Vous connaissez toute cette histoire où la plupart d'entre nous connaissons cette histoire du jeune homme riche qui va voir Jésus, cette rencontre. Dans le chapitre 18, mais cette histoire, elle est reportée dans deux autres livres. Il y a Matthieu 19, Luc 18 et aussi Marc 10. Et c'est, on parle d'un jeune homme, un dirigeant, un chef qui possède une certaine influence, qui est reconnu dans la société. Et, mais pourtant, cette histoire, elle est reportée dans trois évangiles parce que, en fait, il y a eu trois témoins oculaires de ce qui s'est passé, de cette rencontre. Et si ce texte est reporté trois fois, c'est parce que Dieu veut vraiment nous enseigner quelque chose au travers de cette histoire. Non seulement on sait que cette histoire s'est passée parce qu'il y a eu trois témoins avec les autres disciples, mais aussi qu'on sait que Dieu veut nous parler. Et ce matin, on va lire cette histoire ensemble du jeune homme riche. Donc, on est à la Bible, on est à l'église, donc on lit notre Bible, ok? On va lire quelques petits versets. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Ceux qui ont leur Bible, ouvrez votre Bible, mais ceux qui n'ont pas, la Bible va s'afficher sur les écrans. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, le jeune homme riche, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche. Jésus, voyant ce qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Lorsqu'on lit cette histoire, on voit un jeune homme riche qui a réussi dans sa vie. On voit un jeune homme qui a un statut social élevé dans la société. Il a une certaine influence. Il a tout ce que son cœur désire. Mais il lui manque une seule chose. Il se dit, il manque quelque chose. Mon besoin n'est pas comblé. Je veux avoir cette assurance qu'un jour, je vais vivre pour l'éternité avec Dieu. Donc, il s'approche de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde, on voit un jeune homme qui est à la bonne place, avec la bonne personne. Il est face à Jésus avec la bonne question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que Jésus. Okay, Jésus, c'est la meilleure personne pour lui donner la réponse. Mais Jésus va lui donner une réponse en deux temps. Et elle est surprenante, la réponse de Jésus. Jamais il lui dit, tu dois faire ça. Il lui dit juste, il va lui donner une réponse. Il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Pourquoi Jésus est en train de lui faire ça? Parce que Jésus veut lui faire réaliser que seul Dieu est bon. Il dit, ton critère de bonté est beaucoup trop bas par rapport au critère de bonté que Dieu a. Il appelle Jésus bon maître. Il dit maître, rabbi. Donc, il associe au fait que Jésus, c'est un homme. OK? Il réalise que Jésus, il comprend que Jésus, c'est un homme. Il comprend l'humanité de Christ. Il s'approche de lui, mais il dit bon maître. Le terme en grec, ça veut dire honorable, parfait. Donc, il ne voit pas Jésus comme quelqu'un qui enseigne bien. Non, il voit comme quelqu'un qui est parfait, qui est honorable et qui est bon et qui enseigne. C'est pour ça qu'il dit bon. Et là, Jésus dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun homme ne peut être bon. Et tu penses réellement qu'un homme peut être bon? Tu te trompes. Il y a une erreur ici. Et il dit, ton critère de bonté est beaucoup trop bas. Jésus est en train de nous renvoyer, nous aussi, de dire, seul Dieu est parfait. Soyez parfait comme mon Père. Seul Dieu est parfait. Aucun homme ne peut prétendre être parfait. Amen. Seul Dieu est bon. Amen. Qui le croit en cela ce matin? Qui croit que seul Dieu est bon? Amen. Dis-le à ton voisin, seul Dieu est bon. Amen. Mais ce texte nous révèle aussi que tu n'es pas une bonne personne. Dis pas à ton voisin. Ne le dis pas. Premièrement, on voit que seul Dieu est bon. Personne ne peut prétendre être bon si ce n'est que Dieu. Mais Dieu va lui poser une autre question. Dieu va donner une autre réponse parce qu'il dit, que dois-je faire? Jamais il se questionne, en qui je dois croire? Qui je dois suivre? Non, il dit, que dois-je faire? Parce que pour lui, forcément, avoir la vie éternelle, c'est quelque chose qu'il doit mettre une action en place. Il doit faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Et c'est normal parce que lorsqu'on voit cette question, on sait que s'il a réussi dans sa vie, s'il arrive à ce rang social dans sa vie, s'il a des richesses, c'est parce que toute sa vie, c'est un gars qui a eu l'habitude de mettre en place des actions, de faire des choix pour acquérir, pour posséder ce qu'il désirait. Et là, toutes les choses qu'il avait déjà, il dit, je vais peut-être quand même aussi ajouter la vie éternelle, donc je sais forcément que je dois faire quelque chose. C'est inconcevable que je ne dois pas faire quelque chose. Et il a tout ce que son cœur désire, mais il veut la vie éternelle, et pour lui, forcément, je dois atteindre la vie éternelle, et pour atteindre la vie éternelle, je dois faire quelque chose. Et Jésus, il est là. Il veut essayer de lui faire comprendre. Mais moi, à chaque fois que je lis cette histoire, je pense à un ami, une discussion que j'ai eue avec un ami il y a quelques années de cela. Et lui et moi, on était tous les deux à l'église, on a grandi ensemble à l'église, et un jour, j'étais avec lui, comme ça, je discute avec lui, et là, je dis, mais quand est-ce que toi, tu vas accepter Jésus dans ta vie, tu sais? Quand est-ce que tu vas passer par les eaux du baptême? Parce que, vraiment, j'ai l'impression qu'il lui manquait plus que ça, tu sais. Il priait, il passait du temps et tout ça, mais jamais j'ai eu de façon claire qu'il a dit, j'ai pris une décision, Anthony, je veux suivre Jésus dans ma vie, je veux l'accepter, je veux passer par les eaux du baptême. Et là, sa réponse, elle m'a surprise, il m'a dit, tu sais, Anto, les standards de la vie chrétienne sont beaucoup trop élevés pour moi. Tu sais, quand tu vois un chrétien, là, Anthony, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui prend soin des autres, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, quelqu'un qui a toujours la joie sur son cœur, quelqu'un qui sert son église, quelqu'un qui a trop de qualités, et moi, je sais que jamais je serai capable de faire ça. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, je dois faire des choses que la vie chrétienne implique et je pourrai jamais faire ça. Je pense que la vie chrétienne, ce n'est pas pour moi. Je serai jamais à ce niveau-là. Et ça m'avait vraiment perturbé sa réponse parce que pour lui, ce qui ferait de lui un chrétien, c'est les œuvres qu'il allait faire. Ce qui ferait de lui une personne sauvée serait ce qu'il a accompli. Il a accompli des bonnes œuvres dans ma vie, donc je suis un chrétien. Pour lui, c'était ça. Et je me rappelle, j'ai dit, donc pour toi, un chrétien, c'est quelqu'un de parfait. m'a dit, j'ai dit, j'ai deux questions à te poser. Avec un petit sourire comme ça. Je lui dis, est-ce que tu penses que je suis chrétien? Il me dit, oui, Anthony, t'es chrétien, tu sais, t'es tout le temps à l'église, tu es tout le temps avec ta guitare, t'es tout le temps en train de chanter, tu lis de la louange, tu es impliqué au niveau des ados, tu es marié, tu vas bientôt te marier avec Johanna, je sais que vous, elle et toi, vous gardez tous les commandements de Dieu, vous la pureté sexuelle et tout ça avant le mariage, c'est fou, tout, c'est sûr que toi, t'es chrétien, tu sais. Je lui dis, non, mais encore, développe. Et là, je commençais à voir qu'il commençait à douter, tu sais. Il dit, ok, non, peut-être qu'il est pas si parfait que ça. Mais bon, je lui ai posé une deuxième question. Je lui ai fait, est-ce que tu joues au soccer avec moi le dimanche soir? Et il a explosé de rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'étais sur un terrain de soccer, le fruit de l'esprit, là, il sortait pas. J'étais la première personne à mettre les plus gros tacles, la première personne à être le plus en colère. En fait, je mettais beaucoup d'amour dans ma façon de jouer. Et du coup, j'allais un petit peu trop fort. Et j'étais la première personne à être mauvais perdant, à râler et à ne pas être content. Et là, il a explosé de rire. Peut-être qu'il a commencé à réaliser que oh, finalement, chrétien, ce n'est pas forcément quelqu'un de parfait. Ok, j'ai changé, rassurez-vous, d'accord? J'ai changé. Dieu, c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il change nos cœurs. Amen. Il transforme qui nous sommes. J'ai changé aussi parce que je joue beaucoup moins au soccer. Mais vous savez, c'est fou de voir qu'encore aujourd'hui, des gens pensent que ce qui fait de moi un chrétien, c'est ce que j'accomplis dans ma vie. Ce qui fait de moi un chrétien, ce qui donne de la valeur à ma vie chrétienne, c'est parce que j'atteins certains standards. Et limite, parfois, je suis un petit peu orgueilleux. Ouais, moi, je fais pas comme ça, je suis chrétien. T'sais. Vous savez ce que c'est ça? C'est de la religion. C'est de la religiosité. Être chrétien, ce n'est pas je fais ce que je fais. Être chrétien, ce n'est pas ce que je fais, mais être chrétien, c'est qui je suis. Je suis un chrétien. Et Jésus, dans cette histoire, veut nous amener à comprendre que le chrétien ne devrait pas être une personne qui se prétend être parfaite, mais une personne qui reconnaît ses imperfections. C'est ça qui fait de moi un chrétien. Je suis imparfait, j'ai besoin de toi, Jésus. Amen. Jésus lui dit deuxièmement, ok, tu penses être parfait, alors comment tu veux arriver à la vie éternelle? La deuxième chose qu'il dit, c'est observe la loi. Verset 20, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et là, elle est surprenante, sa réponse. Tu sais, j'aurais aimé une réponse un peu plus authentique. Dire, tu sais, Seigneur, c'est pas si facile que ça d'observer la loi parfaitement. Tu sais, j'ai essayé, Seigneur, mais j'y arrive pas. J'ai essayé de faire toutes les choses que tu demandes de faire, mais j'y arrive pas. Parfois, j'ai peut-être eu des mauvaises pensées. Parfois, j'ai menti. Parfois, j'ai pas honoré mes parents. Parfois, j'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un, mais parfois, je me suis mis vraiment en colère contre une personne. Parfois, tu sais, Seigneur, je me sens tellement incapable d'observer la loi que je m'assois sur une chaise et là, il y a la honte, la culpabilité, le doute qui s'empare de moi parce que je suis pas capable. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que t'agisses dans ma vie. Mais non, lui, il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh! Ok, il est jeune. Ok, il est jeune, mais quelle prétention! Tu veux que je fasse ça? Tu veux que j'observe la loi? Ok, c'est bon pour moi. J'ai observé la loi depuis que je suis tout jeune, donc je vais hériter de la vie éternelle. Pour lui, c'est comme si Jésus disait, c'est validé pour toi. Tu es une bonne personne, tu fais ce qu'il faut faire. Tu fais ce qu'il faut faire pour atteindre la vie éternelle. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est combien de fois on pense faire ce qu'il faut. Combien de fois on pense faire ce qu'il faut? Parce que, imaginez-vous, quand je lis cette histoire, j'imagine toujours Jésus avec un petit regard et un petit sourire en coin comme ça. Il me dit, ah ok, tu penses faire ce qu'il faut, tu penses que tu obéis correctement à la loi. Tu sais, un petit sourire un petit peu moqueur comme ça. Et là, il regarde les disciples comme ça, il dit, regardez ce que je vais lui dire. Tu sais. Il dit, viens, jeune homme riche. Tu sais quoi? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et après suis-moi. Vas-y, fais-le. Et là, le gars, il commence à pleurer. Tu sais. Là, Jésus lui dit, mais pourquoi t'es triste? Tu viens de me dire que t'étais parfait. Pourquoi t'es triste? Arrête de pleurer. Oh, regardez-le, il est en train de pleurer. Mais arrête, tu te prétends être parfait, tu te prétends être trop bon. Et là, je te demande juste de faire ça et t'es pas capable. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, heureusement que Jésus, il n'est pas comme moi. Jésus n'est pas comme ça. Peut-être que moi, j'aurais pas été comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas quelqu'un qui se moque de nous quand on se trompe. Jésus n'est pas quelqu'un que quand tu es dans l'erreur, il est en train de se réjouir. Quand tu te trompes, il veut te faire comprendre avec un petit air sarcastique que, t'es dans l'erreur. Non, non, non. Jésus n'est pas comme ça. Lorsqu'on lit, là on a lu Luc 18, mais quand tu lis Marc 10, la même histoire, avant que Jésus lui dise, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Marc 10, 21 nous dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et c'est fort, c'est là où on voit et on comprend combien Jésus est amour. Il le regarda et l'aima. Quand on est dans l'erreur, le regard de Jésus-Christ sur nos vies est toujours le même. Il est rempli d'amour. Quand tu trompes de voix, quand tu fais les mauvais choix, quand parfois tu as l'impression d'avoir commis des choses qui sont irréparables, quand parfois même tu as l'impression que tu es beaucoup trop éloigné, quand tu as l'impression que parfois même Jésus ne me regarde pas, c'est pas possible qu'il me voit actuellement. Non, le regard de Jésus sur ta vie ne changera jamais. À chaque fois que Jésus pose le regard sur ta vie, il t'aime. Il t'aime. Amen. Et c'est pour ça qu'il c'est sa motivation principale. Lorsqu'il voit ce jeune homme riche dans l'erreur complète, sa principale motivation, c'est l'amour. Il dit, hey, viens, regarde, je vais t'emmener à l'humilité. Je vais t'emmener à réaliser que non, tu peux pas y arriver par toi-même. J'ai besoin de toi. Et quand je lis ce texte, j'ai été interpellé parce que combien de fois on peut penser que le regard de Jésus sur nous va changer et être différent en fonction de ce que je fais. Combien de fois ça peut nous arriver? Ok, imaginez-vous, vous avez une petite checklist, la to-do list du chrétien parfait. C'est, j'ai une belle voiture, je réussis financièrement, j'ai pu m'acheter une maison, même pendant la pandémie, pas de problème, j'avais la mise de fonds. J'ai un beau patio avec un beau barbecue, tout va bien, socialement tout va bien. Mes enfants, quand ils vont à l'école, c'est eux qui ont la boîte à lunch la plus santé possible. Toutes les mamans capotent à côté. À l'église, tout le monde me connaît. Tout le monde sait que j'ai un bon témoignage, que mes enfants sont gentils. Check, regarde ma to-do list, je suis fidèle dans mes offrandes, je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours, j'amène des nouveaux pour Pâques, pour Noël. Je fais tout ça, moi. Et là, je t'imagine devant Jésus comme ça, à dire, hey, Jésus, regarde, t'as vu tout ce que je fais? C'est sûr que tu m'aimes, c'est sûr que t'as un regard plus favorable sur ma vie, c'est sûr que parce que je suis en train de faire toutes ces choses-là, que tu m'aimes encore plus. Jésus dit, c'est sûr que je t'aime. Je t'aimerai pour toujours. C'est sûr que je t'aime. Mais il ajoutera, ce n'est pas parce que tu fais ces choses-là que je t'aime. Ça ne change rien à mon amour pour toi. Mon amour n'est pas plus grand ou ne change pas. Mon amour pour toi est inconditionnel. Mon amour pour toi est profondément parfait. Cherche tout autour de toi. Personne n'a pu t'aimer. Personne ne t'aime et personne ne t'aimera autant que moi je peux t'aimer. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et dit, tu veux la preuve que c'est pas ce que tu fais actuellement qui prouve que je t'aime? C'est ce que l'apôtre Paul nous te dit. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Dieu, son amour pour ta vie n'est pas conditionné par les choses que tu fais. Bonne ou mauvaise? Bonne ou mauvaise, ce simple verset, cette pause que Jésus fait, il l'aima, nous montre que son amour pour nous n'est pas conditionné par ce que nous faisons. Jésus nous aime tel que nous sommes. Je ne peux rien faire pour avoir plus un regard favorable. T'sais. Parfois on est là, c'est sûr que je vais avoir une bénédiction bientôt. Là, t'sais. C'est sûr que le regard de Dieu il est plus favorable sur ma vie parce que j'ai accompli ces choses-là. Non, Dieu, il t'aime, Dieu a un plan parfait pour toi. Dieu t'aime comme tu es. Dieu n'a pas besoin que tu fasses toutes ces choses-là. Maintenant tu me dis, ok, mais... C'est-à-dire qu'en fait, en tant que chrétien, je fais ce que je veux et Dieu va continuer de m'aimer. Je vais faire du mal ou je vais arrêter de faire des bonnes actions et des bonnes œuvres et Dieu va continuer de m'aimer. Et de toute façon, ça change en rien, de toute façon. Non, c'est en tant que chrétien, Dieu va continuer de t'aimer. Jésus va continuer de t'aimer. Mais en tant que chrétien, nous sommes appelés à avoir un bon témoignage. Qui est d'accord avec moi? Nous sommes appelés à, dans notre façon d'être, à refléter l'image de Christ. Nous sommes appelés à être les meilleurs parents qui soient. Nous sommes appelés à donner notre maximum pour nos enfants, pour les gens qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à partager l'image de Christ dans notre travail, là où nous sommes dans la société. Mais la motivation, le point, c'est que notre motivation doit être différente. Je ne fais pas des choses pour être aimé de Dieu. Je ne fais pas ces choses-là pour être aimé de Dieu. Je les fais parce que je suis aimé de Dieu. Je ne fais pas pour, je le fais parce que, c'est pas pour être aimé de Dieu que je vais faire des bonnes actions. C'est parce que Dieu m'a aimé, Dieu me pardonne, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin, Dieu est présent, Dieu est là chaque jour avec moi. C'est à cause de toutes ces choses-là que moi aussi je veux donner, moi aussi je veux servir, moi aussi je veux prendre soin de mon église, moi aussi je veux prendre soin de mes enfants, moi aussi je veux faire des bonnes actions, moi aussi je veux faire toutes ces choses-là parce que je méritais rien, Dieu m'a tout donné, mais grâce à lui aujourd'hui, je peux donner cet amour parce qu'il m'a tout donné. Amen. Et tu sais, je ne sais pas si c'est ton cas ce matin, mais j'aimerais que tu puisses te libérer de ce poids-là. Peut-être qu'en ce moment, tu dis, quand je regarde ma vie là, je lis tellement pas ma Bible. Je suis tellement pas proche de Dieu. En ce moment, c'est vraiment Dieu. Et je pense que Jésus, il n'a pas un regard d'amour sur moi. Enlève ce poids, tu vas t'épuiser. Arrête de penser que tu vas faire des choses pour plaire à Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Enlève ce poids. Tu sais, agir de la sorte va te pousser au désespoir, au découragement, à l'abandon, parfois même à la comparaison. Et moi, je ne suis pas comme lui, tu sais. Moi, je ne suis pas comme pasteur Jérémy, tu sais. Est-ce que Dieu m'aime quand même? La réponse est oui, Dieu t'aime quand même. L'amour de Dieu, tout comme la vie éternelle, ne s'acquiert pas. On la reçoit. On reçoit ces choses-là. C'est donc ce que j'ai besoin de réaliser. C'est ce que Jésus veut amener ses disciples, le jeune homme riche. Il a besoin de réaliser que la vie éternelle ne s'acquiert pas, on le reçoit. Si on continue dans le texte, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Marc 10, le même verset dit, mais affligé par ces paroles, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus lui dit, donne tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et lui, il est tout triste. On voit deux choses là-dedans. Première chose, c'est qu'il est beaucoup plus attaché à l'argent qu'à Dieu. Jésus l'avait discerné. Et en fait, il est en train de dire, tu pensais accomplir la loi parfaitement, ben en fait, tu n'es pas capable d'accomplir le premier commandement, c'est qui est de aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Mais nous tous, c'est pareil. Nous tous, on serait disqualifiés. Qui peut penser constamment à Dieu dans sa journée? C'est inaccessible. Et Jésus voulait lui emmener là-dedans. Mais lui, il transgressait le premier commandement parce que l'argent ne le possédait. Il ne possédait pas d'argent. C'était l'argent qu'il possédait. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il quitte Jésus. Il s'en va. Tu sais, Jésus peut-être voulait l'emmener à dire, ok, ben, tu sais, Seigneur, si c'est ça être parfait, si c'est ça faire ce qu'il faut pour aller au ciel, ben, je suis pas capable. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ok, je reconnais mes imperfections, je reconnais que finalement, la loi, je l'ai pas accomplie comme il fallait, donc j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'aider, j'ai besoin que je veux te suivre. Mais lui, il quitte. Il quitte. Et c'est dramatique parce que, comme tout à l'heure, il est avec la bonne personne. Il est avec la bonne question, le bon désir. Il pose à la bonne personne exactement, mais il fait le mauvais choix. Il quitte. Imaginez-vous comment il passe à côté de ce que Jésus a prévu pour lui. Tu sais, cette rencontre se passe avant que Jésus aille à Jérusalem pour ensuite se faire crucifier à Golgotha. Il passe à côté de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, la mort de Jésus sur la croix. Peut-être que s'il avait simplement suivi Jésus, il aurait pu voir, ah ok, mais il n'a pas compris la grâce de Dieu. Il n'a pas compris la grâce de Dieu si seulement ce jeune homme avait suivi Jésus. Si seulement ce jeune homme avait suivi Jésus, mais il part triste, affligé. Et regardez au verset 24 et 27 avec moi. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient, ses disciples, dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Jésus utilise ici une exagération. On essayait de comprendre théologiquement pourquoi un chameau... Non, Jésus, il fait juste une hyperbole pour dire « C'est pas possible, ok ? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'acquérir le ciel par toi-même. C'est pas possible. » Mais imaginez-vous, si on se met à la place des disciples à l'époque, pourquoi ils posent cette question « Mais qui peut être sauvé ?» Parce qu'on voit là qu'ils sont choqués par ce qui se passe. Ils voient qu'ils sont bah ok, bah si ce gars-là peut pas être sauvé, bah moi, c'est fini pour moi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, avoir des richesses, avoir un haut statut dans la société était synonyme de bénédiction. Ces gars-là, là, c'était le modèle suprême. Quand tu voyais quelqu'un comme ça, tu disais, ok, lui, c'est sûr, il est proche de Dieu, il a une relation parfaite avec Dieu, il accomplit la loi, il a de grandes richesses, Dieu le bénit. C'était vraiment vu, c'était ancré dans la culture de l'époque. Tu sais, c'est comme aujourd'hui. C'est un peu pareil parfois aussi. On pense que quelqu'un, quand il donne une bonne image, Il renvoie une bonne image. Vous savez, ce voisin qui s'est tout le temps bien déneigé chez lui, je ne sais pas comment il fait, mais c'est tout le temps bien déneigé. Il a un beau mariage, il est avec ses enfants à Noël, ils ont toujours une petite photo avec tout le monde habillé pareil, tous avec le même pyjama, tous avec le sourire. Vous voyez ou pas? Il a tout le temps le dernier char à la mode. Je dis, mais comment il fait? Ben, ce gars-là, le jeune homme riche, c'était la même chose. C'était la même personne. Et pour eux, il dit, mais si lui, il n'est pas sauvé, comment moi, je ne vais pas être sauvé? Comment lui peut être sauvé? Jésus veut montrer à ses disciples une chose cruciale pour le salut. Cela ne dépend pas de nos actes ou de nos mérites. Rien ne dépend de tes actes. Il veut juste qu'ils réalisent que le salut ne s'acquiert pas. On reçoit le salut. C'est un don gratuit de Dieu par grâce. Le salut ne s'acquiert pas, on le reçoit. Et quand j'étudiais ce texte, c'était intéressant de voir que juste avant ce petit texte, Dieu dans Luc dans son évangile, Luc 8, 15 à 17, il écrit cette petite histoire. Remontez avec moi dans Luc 18, versets 15 et 17. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Les petits enfants, dans le terme grec originel, c'est les nourrissons. Les nourrissons. D'ici, celui qui n'est pas capable de recevoir le royaume de Dieu comme un nourrisson, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et quand j'ai lu ça, je ne sais pas si vous le savez, là, ben, Jérémie l'a dit, mais j'ai une petite fille de 5 ans, elle s'appelle Lily Rose. Et je me rappelle encore que quand elle était tout bébé, je crois qu'il y a une photo qui va s'afficher. Là, elle avait un jour, ok? C'était à la maternité, je la prenais et j'étais wow, dans quoi je m'embarque là, tu sais? Mais j'étais rempli d'amour envers elle. Je sais pas si elle m'aimait par contre. Parce que, en vrai, un bébé, qu'est-ce que ça apporte au début? Des pleurs. J'ai faim, je pleure. Faut changer ma couche, je pleure. C'est tout. Les nourrissons, c'est ça, tu sais. Et nous, en tant que parents, on est là, oh, il est trop cute et tout. Mais on est fatigué aussi la nuit, ok? Mais c'est fou de voir que cet enfant, si tu le prends un nourrisson et tu le mets dans le berceau et tu dis bye bye, qu'est-ce qui se passe? Il laisse là une nuit, deux nuits, trois nuits. Il n'est pas capable de s'alimenter par lui-même. Il n'est pas capable de faire quoi que ce soit par lui-même. Donc cet enfant, instinctivement, quand il est dans le berceau, quand il voit sa mère et son père, il dit « Ok, c'est une question de vie de mort pour moi. Si je ne fais pas confiance en ces gens-là, si je ne mange pas ce qu'ils me donnent à manger, si je suis pas… » Bon, ils ne sont pas tellement dociles, mais si je ne me laisse pas nourrir par eux, si je ne me laisse pas leur prendre dans mes bois pour me consoler, si je ne les laisse pas m'aimer, ça va être compliqué pour moi. Donc l'enfant, il va naturellement, parce que c'est une question de vie ou de mort pour sa vie. C'est la même chose pour nous. Combien de fois, ouais, j'ai essayé, tu sais, Seigneur, j'ai essayé de prendre ta grâce, j'ai essayé de prendre le... Mais j'y arrive pas. Personne n'essaye de prendre quelque chose. Soit tu prends, soit tu le prends pas. Je te donne ma Bible, essaye de la prendre. Je te dis, essaye de prendre ma Bible. Tu vas arriver et tu vas la prendre. Donc, tu peux pas essayer. Non, soit je prends ce que Dieu me donne, soit je le prends pas. Comme les enfants. Seigneur, ton salut, ta grâce pour ma vie, c'est quelque chose que je ne mérite pas. C'est quelque chose que je ne peux pas m'acquérir ou posséder par moi-même, j'ai besoin que tu me le donnes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu la solution. Il nous la donne, la vie éternelle, par la mort de son Fils sur la croix. Tu sais, personne ne peut s'auto-justifier. Personne ne peut se dire, non, je vais aller au ciel par moi-même. Personne ne peut se dire ça. Tu sais, parce que là, ce matin, si quelqu'un se lève dans la salle et me dit, hey, Anto, moi, j'ai accompli la loi. Est-ce que vous pensez que, et tu me dis, est-ce que je peux aller au ciel? Je dis, si tu as accompli la loi parfaitement, si tu as répondu aux 10 commandements parfaitement, c'est sûr que tu peux aller au ciel. C'est sûr. Mais ce texte nous montre que personne n'est capable de le faire. Et même en toi, à l'intérieur de toi, tu sauras que tu pourras pas le faire. Personne peut arriver face à Dieu avec le fait, regarde Jésus, ma copie parfaite, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça prouve que ma vie est en accord avec toi et je peux gagner le ciel par moi-même. Non. C'est Dieu qui me le donne. Personne ne peut faire ça. Mais tu sais, c'est une bonne nouvelle de savoir que j'ai besoin de Jésus pour aller au paradis. Parce que si toi et moi, on comptait sur nos propres mérites, bon, je veux dire, si je comptais, ok, je vais t'exclure ce matin, mais si je comptais sur mes propres mérites pour aller au ciel, crois-moi, je serais dans une très, très, très mauvaise position. Une très mauvaise position. Toi comme moi, on aurait déjà perdu. J'ai besoin de Jésus. Ce jeune homme riche, lui, il a perdu, il n'a pas fait le bon choix. La Bible nous parle du salut et elle nous dit que le seul moyen d'aller au paradis, c'est de vivre une vie parfaite. Right, c'est ce qu'on a appris. Mais toi comme moi, on vient de voir ensemble qu'il nous est impossible d'être parfait. Mais elle propose une autre solution, celle de finalement, qui est la seule solution qui nous reste, celle de mettre notre foi dans celui qui est parfait. Amen. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Je par la grâce de Dieu, je suis sauvé et je reste sauvé. Parce qu'attention, combien de fois parfois on est chrétien, on accepte Jésus dans notre cœur, et là on est là, on a cette nouvelle pression sur nous. Ok, il faut que je garde mon salut, tu sais. Il faut que je fasse tout pour garder mon salut. Non, non, tu es sauvé et tu demeureras sauvé jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a rien qui va enlever ton salut. Rien, parce que Dieu te l'accorde par grâce. Par grâce, Dieu t'accorde. On est tous disqualifiés car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Billy Graham dit, le motif de la grâce est l'amour infini et compatissant d'un Dieu miséricordieux. Pourquoi Dieu meurt sur une croix? Pourquoi Dieu choisit ce... Qu'est-ce qui motive Dieu? Seule chose qui le motive, c'est l'amour qu'il a pour toi et moi. Maintenant, l'œuvre de la grâce et la mort du Christ sur la croix. Comment s'accomplit la grâce dans ma vie? Il faut que je reconnaisse ce qui se passe sur la croix. Il faut que je regarde vers la croix et je dis, ok, Dieu m'aime tellement qu'il décide de mourir pour moi. Dieu m'aime tellement parce que même les fautes que j'ai pu commettre dans ma vie, même ces choses-là que j'ai pu commettre dans ma vie, Dieu a décidé de dire, hey, moi, je vais mourir pour toi. Je vais te justifier. Mon sang va couler pour te sauver. Et je finis mon message là-dessus. Avec la même question que le jeune homme riche a posée à Jésus. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? En vrai, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire ce matin, c'est de regarder vers la croix. Que dois-je faire, Seigneur? J'ai essayé toute ma vie à faire ce que tu voulais que je fasse. J'ai essayé toute ma vie à mettre ma vie en ordre. J'ai essayé toute ma vie à mettre des choses en ordre pour te présenter une bonne copie de moi. Que dois-je faire? Hey, t'es pas obligé de faire ça. Regarde à la croix. Jésus est mort sur la croix afin que de payer nos fautes et il est ressuscité. Tu sais, souvent, quelqu'un me dit, mais quelle valeur j'ai aux yeux de Dieu? Quelle valeur? Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Et je lui réponds toujours, la valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est la croix. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est ce qui a pris place à la croix. Tu te poses la question, quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Regarde à la croix. Tu sais, toutes les religions du monde enseignent que je dois faire quelque chose pour gagner mon sel. Je dois faire des choses pour être approuvé de mon Dieu. La religion chrétienne, le christianisme, c'est la seule religion qui dit Dieu quitte son ciel, s'humilie, devient comme nous pour vivre la vie parfaite que nous, on est incapable de vivre. C'est ça le christianisme. Et Dieu n'a jamais, arrête de croire que tu dois être parfait, Dieu n'a jamais imposé parce qu'il a déjà prévu la solution. Tu ne pourras pas être parfait. La seule chose qui te reste à faire, mets ta foi en ce Dieu qui est parfait. Immuable. La valeur de ce qui s'est passé sur la croix ne changera jamais. Mais elle changera ta vie à tout jamais. La croix va changer ta vie et ta destinée à tout jamais. La valeur de ce qui s'est passé à la croix ne sera jamais diluée par ce que tu as pu commettre. La valeur de ce que tu as, de ce qui s'est passé à la croix ne pourra jamais être diminuée, rabaissée par peut-être cette semaine que tu es retombé dans une addiction, peut-être cette semaine que tu t'es peut-être un peu trop emporté. Jamais, jamais ça va être conditionné par ça. Ce qui s'est passé à la croix, c'est un don gratuit. Dieu te le donne. Il te dit, prends-le. Regarde à la croix. Regarde à la croix. C'est pourquoi? Parce que même quand Jésus était comme ça sur la croix et qu'il nous regardait, son regard n'a pas changé sur nos vies. Il était toujours rempli d'amour. Comme il regardait le jeune homme riche. Comme il nous regarde ce matin. Jésus m'aime. J'aime. Je t'aime, mon enfant. Son regard restera toujours le même. Que dois-je faire, Seigneur? Regardez à la croix. et pas faire comme ce jeune homme riche. De reconnaître que, hey, je suis imparfait. Je ne vais pas y arriver tout seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que à cause de mes fautes, tu as dû mourir sur cette croix. Et ce matin, je me rends compte que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je dois accepter, reconnaître mon besoin. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Peut-être que ce matin, tu es comme ce jeune homme riche, tu es face à Jésus. Tu es à la bonne place, au bon endroit, avec la bonne question, avec le bon désir dans ton cœur. Mais quel sera ton choix? Quel sera ton choix? Et là, vous me dites, ok, mais Anthony, nous, on est des chrétiens depuis des longues dates. Pourquoi tu me prêches sur la croix? C'est peut-être le millième message que j'entends sur la croix. Qu'est-ce que ça peut changer encore, la croix dans ma vie, si je suis justifié? Qu'est-ce que ça peut faire de regarder vers la croix? C'est, je t'invite aussi à regarder vers la croix. Je t'invite à toi aussi à regarder vers la croix. Même moi, je m'invite à regarder à la croix. Et vous savez pourquoi? Parce que la croix me pousse à l'adoration. On a chanté tout à l'heure. Hey, Seigneur, vois ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je ne mérite rien, Seigneur Jésus-Christ. Seul me suffit, Seigneur. Tu as tout donné. Ton amour pour moi est inconditionnel. La croix me donne espoir. C'est mon espoir. C'est ma motivation principale. La croix me pousse à reconnaître que je dois changer des choses en moi. Écoutez-moi un instant. Lorsqu'on regarde à la croix et qu'on réalise la mort de Jésus sur la croix, et qu'on voit chez nous encore des choses qui pourraient comme nous empêcher d'avoir un bon témoignage, des choses qu'on sait que c'est un défaut qu'on doit changer, on sait que c'est quelque chose qu'on doit remettre au pied de Jésus, on sait qu'on ne doit plus rester comme ça, qu'on doit évoluer, qu'on doit changer. C'est la croix qui me fait réaliser ces choses-là. Parce que lorsque je regarde la croix, je dis, mais Dieu, toi, t'es mort pour des choses comme ça. Alors pourquoi moi, je vais le garder? Je les remets au pied de la croix. La croix m'aide à persévérer dans les épreuves. Peut-être que ce matin, tu me dis, Anthony, c'est compliqué en ce moment. Ma vie est compliquée. Je m'écroule. Je suis fatigué. Je n'ai pas l'impression que ça va arriver. J'ai un flot d'inquiétude. J'ai l'impression que Dieu m'a quitté. Regarde à la croix. La croix va te donner espoir. Parce que si quelqu'un est capable de mourir sur une croix pour toi, à combien plus forte raison ce matin, il ne va pas prendre soin de toi. La croix me donne cet espoir. La croix me rappelle que Jésus m'aime. La croix me rappelle que Jésus m'aime. La croix seule me suffit. Amen. Je vous invite à baisser vos têtes. Et ce matin, je sais que vraiment on le fait le dimanche matin, mais ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message, ou c'est peut-être la première fois que, peut-être pas la première fois, mais tu réalises que, hey, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. Et crois-moi, personne ne te regarde dans ce lieu. C'est une décision que tu veux prendre. Ce matin, si c'est ton cas, j'aimerais réellement prier pour toi. Ce matin, tu dis, hey, Seigneur, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je comprends que j'ai besoin de toi pour ma vie. J'ai besoin que, je sais que ma vie va changer. Je sais que là, lorsque je suis face à ta croix, Seigneur Jésus-Christ, ma vie va littéralement changer, Seigneur. Et ce matin, je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux te faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je reconnais mon péché et je viens vers toi, Seigneur. Si c'est ton cas ce matin, personne ne te regarde. Tu peux lever ta main. Moi, je vais prier pour toi. Alléluia, Jésus. T'hésites peut-être, mais Dieu, ce matin, lui, te voit. Personne d'autre te voit. Dieu t'aime et Dieu veut que tu viennes à lui. Tu as besoin de dépendre de lui. Et ce matin aussi, je ne sais pas, peut-être que tu es, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un chrétien de longue date. Et par ce message, Dieu t'interpelle et t'invite à arrêter de faire des choses pour faire des choses pour être aimé de Dieu, faire des choses pour avoir l'approbation de Dieu, faire des choses pour avoir l'approbation des autres. Peut-être que ce matin, Dieu veut simplement que tu dises, hey, Seigneur, j'ai besoin de réaliser que je deviens de plus en plus religieux, Seigneur Jésus, je ne réalise pas encore que j'ai arrêté de réaliser, j'ai arrêté de comprendre, j'ai oublié, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'aimes, Seigneur Jésus, en dépit de mes imperfections. Tu m'aimes malgré tout. Ce matin, c'était peut-être ton cas et j'aimerais prier pour toi. Si c'est ton cas, tu peux aussi lever ta main à ta place. Personne ne te voit ce matin. Peut-être ce matin aussi, tu vis dans des épreuves. Et tu dis, mais Dieu, ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne me voit pas. Il n'est pas avec moi. Prends pas soin de moi. Que ce matin, tu dis, ok, mais je vais regarder à la croix parce que à la croix, je sais que Dieu va prendre soin de moi. Au pied de la croix, je vais encore réaliser que son amour pour moi est inconditionnel, qu'il m'aime malgré tout et qu'il va prendre soin de moi. La croix est mon espoir. Si c'est ton cas, et même pour tous ceux qui ont levé la main à la fin, n'hésitez pas à venir. Il y a une équipe pastorale qui sera là, qui va prier pour vous. Mais ce matin, moi, je veux prier pour vous. Regarde à la croix. Je prie aussi pour moi. Je regarde à la croix, Seigneur, ce matin. La croix seule me suffit. Yes, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Un Dieu vivant. Un Dieu réel, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que ta croix a changé ma vie. Et je crois que ce matin, ta croix est encore en train de transformer et changer des vies ce matin. Ce matin, je te prie, Seigneur Jésus, pour ceux qui ont fait ce choix de t'accepter dans leur vie, Seigneur. Je prie pour leur vie, je prie que dès maintenant tu viennes, Seigneur Jésus-Christ, et que tu prennes dans tes bras d'amour. Je te prie aussi pour ceux qui avaient perdu espoir, qui se disaient, j'y arrive plus en ce moment, je pense que je dois faire des choses pour être approuvé de Dieu, mais ce matin je réalise que Dieu m'aime malgré tout et que je vais faire des choses maintenant parce que je suis aimé. Viens donner cette assurance, Père. Viens renouveler les pensées, viens renouveler les cœurs aussi, Seigneur Jésus. Et faire en sorte que ce matin, Jésus-Christ, que chacun de nous, quand on quitte ce lieu, puisse dire, hey, Seigneur, j'ai besoin de ta croix. Ta croix me suffit. J'ai besoin d'être proche de toi. J'ai besoin de me rappeler combien tu es bon. J'ai besoin de me rappeler de ta mort sur la croix, ce sacrifice qui me justifie finalement. J'ai besoin de cela, Seigneur Jésus, pour me redonner espoir, pour me booster dans ma foi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à revenir à la croix, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu ce matin?
J'aimerais aussi que on puisse prendre ce chant ce matin. Je vous invite à vous lever à votre place. On va prendre ce chant qui dit « La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme. L'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Rien d'autre je désire, Seigneur, ce matin. Que ça peut être la prière de nous tous ce matin. Alléluia. »